Chasseurs d'horizons, émission consacrée aux sciences, aux nouvelles technologies et à la prospective. Des chercheurs nous racontent et nous font partager leur passion de connaître.
Je suis en compagnie de l'astrophysicien François Rodier, qui fut le créateur du département d'astrophysique de l'Université de Nice avant de poursuivre sa carrière aux États-Unis. Il publie aux éditions Parole un livre intitulé « Thermodynamique de l'évolution ». Je rappelle cet extrait de la quatrième de couverture qui donne parfaitement le ton de cet ouvrage. Ce livre n'est pas facile à lire, pourtant il est génial. Il nous donne l'intelligence de comprendre une myriade de choses dont le sens nous échappait. Nous comprenons même de façon intuitive ce que nous ne comprenons pas. C'est jubilatoire. La thèse de ce livre est qu'il existe un principe évolutif commun que l'on peut observer dans des disciplines aussi différentes que la physique, la biologie ou la sociologie. Les mêmes processus sont en cours et obéissent aux lois de la thermodynamique. Nous avons vu dans la première partie de cet entretien diffusé il y a 15 jours comment l'évolution tend à favoriser l'émergence d'organismes de plus en plus complexes. Ces organismes successifs sont des systèmes ouverts nommés structures dissipatives qui vont s'auto-organiser de manière à dissiper le maximum d'énergie. Ces organismes obéissent à la loi de production maximale d'entropie qui les amène à augmenter leur information interne tout en exportant parallèlement de l'entropie. Avec le caractère génétique de la vie, la nature a découvert un processus de réplication de l'information, donc un formidable processus de multiplication de l'énergie dissipée. Nous allons voir comment cette évolution est devenue ensuite culturelle et comment ces mécanismes se déroulent de manière analogue dans des domaines aussi divers que l'économie ou la sociologie. Concernant l'évolution biologique, on peut faire le constat suivant. Plus les organismes vivants dissipent d'énergie, plus ils modifient leur environnement et plus vite ils doivent se réadapter. Lorsqu'une espèce n'a plus le temps de s'adapter, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle l'effet de la reine rouge.
Oui, alors, c'est ça. On arrive au mécanisme de criticalité auto-organisée. C'est un processus autodestructeur. Vous organisez pour dissiper de l'énergie. Pour dissiper l'énergie, il faut s'adapter à l'environnement, pour s'organiser en fonction de l'environnement, d'un certain environnement bien particulier, pour maximiser la dissipation d'énergie. On peut le voir comme ça.
Et plus on dissipe l'énergie, plus on abîme l'environnement, et plus il faut se réadapter.
En dissipant l'énergie, vous modifiez l'environnement. Donc vous êtes adapté à un environnement pour dissiper l'énergie, et en dissipant l'énergie, vous modifiez l'environnement. Alors, rapidement, vous n'êtes plus adapté à l'environnement dont vous êtes parti. Voilà, au bout d'un certain temps, et puis plus vous faites vite, plus rapidement vous êtes obligé de vous réorganiser. Donc on est constamment obligé de se réorganiser.
Et de plus en plus vite.
Alors
la théorie dite des équilibres ponctués montre que l'évolution n'est pas continue. Des périodes d'émergence succèdent à des périodes d'extinction de masse. Ce processus est lui aussi un processus de criticalité auto-organisée. En effet, l'importance des extinctions est inversement proportionnelle à leur fréquence.
Alors ça, c'est Perbach lui-même et ses collaborateurs qui ont mis ça en évidence. Ils ont fait des simulations numériques et puis ils ont dit, c'est cette fameuse loi en 1 sur F, l'amplitude est inversement proportionnelle à la fréquence, enfin c'est des processus en 1 sur F, des petites extinctions, il y en a tout le temps. Perbach compare ça au tremblement de terre, ça. Pour les tremblements de terre, ça marche parfaitement, des petits tremblements, des petites secousses sismiques, il y en a tout le temps, enfin vous ne les ressentez pas, mais les sismographes en enregistrent constamment. Dès qu'on ressent, dans sa vie, on en a ressenti sans doute quelques.
Et dans l'évolution, il y a eu pas mal d'extinctions de masse, un certain nombre.
Alors, des très importantes qui apparaissent dans les enregistrements, dans les données qu'on a retrouvées, on en connaît 5 ou 6, oui, qui sont bien connues, dont la dernière, les dinosaures.
Alors, on peut observer aussi une alternance entre deux types de sélection naturelle appelées R et K, qui s'appliquent dans des types d'environnements différents. Lorsque l'environnement est stable, on assiste à une macroévolution qui favorise les gros organismes qui sont les mieux adaptés, que qu'on appelle la sélection K. Et lorsque l'environnement est instable, la sélection R favorise des petits organismes qui sont plus adaptables. On parle ici de microévolution. Donc on retrouve cette alternance.
Alors ça, c'est, oui, c'est un phénomène qui a été découvert par les biologistes. Qui est resté souvent un mystère, bon, mais qui se comprend très bien dans ces termes d'évolution. Quand l'environnement est stable, bah, l'évolution continue toujours dans le même sens. Donc la structure, elle grossit. Puisque ça marche, elle continue à grossir, à dissiper l'énergie. Donc vous fabriquez, tant que ces animaux survivent bien et se multiplient, vous fabriquez des mammouths ou des...
Oui, comme vous faites beaucoup d'analogies dans le livre, hein, on va le voir en poursuivant, ça fait un petit peu penser à ce qui se passe actuellement avec donc cette crise économique majeure, et on voit réapparaître des petites structures locales, économie locale.
Ce que j'ai un des thèmes de mon livre, c'est que ces processus, on les retrouve en biologie, on les retrouve en physique, on les retrouve en biologie, et on les retrouve dans les sociétés humaines. Et la société humaine, c'est une structure dissipative, qui s'auto-organisent pour dissiper l'énergie, et les mêmes processus, on les retrouve. Une société, si elle dissipe l'énergie, si elle fait évoluer trop vite son environnement en dissipant l'énergie, ben elle va être plus inadaptée, elle va s'effondrer. Alors, les historiens qui ont consacré des ouvrages uniquement à la question, que les civilisations s'effondrent. Les civilisations se développent et puis à un moment donné, elles s'effondrent. Pourquoi les civilisations s'effondrent ? C'est sûr que les extinctions de masse, elles sont connues, admises. Les extinctions de civilisation, est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce que les gens se sont posés souvent la question ? Maintenant, ça paraît clair que c'est le même processus. Vu en termes physiques de physicienne, structure dissipative, c'est le même processus. Donc les extinctions de civilisation sont de même nature que les extinctions de masse des espèces animales ou végétales.
Alors, pour revenir à la sélection naturelle, là où les choses se compliquent, c'est que le processus de sélection naturelle basé sur la compétition n'est pas le seul processus qui permet aux individus d'améliorer leurs chances de survie. D'autres processus fondés sur la coopération viennent s'y ajouter. Il s'agit des processus de sélection de parentèle et de symbiose.
Oui, alors, effectivement, y a plusieurs mécanismes. On n'est pas isolé. Un individu n'est pas tout seul, il vit dans une société. Et une façon de dissiper plus d'énergie, c'est de coopérer avec ses semblables. L'humanité ne serait pas là si on était tous à essayer de survivre individuellement sans se préoccuper. On serait tous en compétition les uns avec les autres. On n'irait pas loin.
Mais la sélection naturelle, on la comprend d'abord comme basée sur un système de compétition.
Exactement. Ça montre que c'est plus compliqué que ça. Darwin lui-même se posait la question, parce qu'il se posait la question, c'est Darwin qui a inventé la sélection naturelle. Il se posait des questions. Il se disait, mais les fourmis, elles coopèrent toutes. Or, elles sont en compétition, et la sélection naturelle devrait favoriser la fourmi qui dit... la meilleure fourmi. Mais non, elles coopèrent, les fourmis. Alors pourquoi elles coopèrent ? Alors les biologistes ont mis du temps à comprendre, et elles coopèrent parce qu'elles ont des gènes communs. Et pourquoi elles ont des gènes communs ? Parce qu'elles sont toutes issues de... Elles ont toutes des gènes de la... C'est toutes des filles de la même reine. Donc elles ont toutes les gènes de la reine.
Et puis le système était plus efficace pour dissiper plus d'énergie.
Alors, et du coup, le fait des fourmis de coopérer, ça leur permet de survivre et de fabriquer un système très efficace pour dissiper l'énergie. Donc c'est une façon de coopérer. Alors il y a aussi une autre façon de coopérer, c'est la façon dont le lichen, du lichen par exemple, hein, c'est un champignon, enfin il y a ces deux gènes différents, de plantes différentes qui vivent en symbiose et qui permettent, voilà. Alors là, c'est pas du tout comme la sélection de parents, c'est l'autre. C'est l'opposé. Et puis on arrive à... Donc c'est les deux chemins possibles qui amènent à la coopération. Moi, ça, c'est un passage un peu délicat que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. Ça s'explique très bien du point de vue biologique, pas d'un point de vue gène. Ça s'explique. Alors, ce que j'ai dit, c'est ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on comprend en termes biologiques pour les gènes, on le comprend, on peut l'appliquer à la culture. Alors, c'est un des thèmes essentiels de mon livre, c'est que c'est le passage de la biologie à l'homme. Entre un individu comme nous et un chimpanzé, c'est dans 1 ou 2% le pourcentage de gènes différents. On a des gènes de chimpanzés. Alors pourquoi l'homme est si différent du chimpanzé? Puisqu'il a pratiquement les mêmes gènes. Alors, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a une structure dissipative, mémorise l'information. Chez les animaux, elle est essentiellement c'est pour ça qu'il y a toute une partie de mon livre qui s'appelle des gènes à la culture. Il y a de plus en plus d'informations qui étaient mémorisées dans les gènes et mémorisées dans une structure qu'on appelle le cerveau, qui n'existait pas dans les premières plantes qui sont apparues sous la mer. Je crois que c'est les méduses, les premiers.
Et c'est ce que Richard Dawkins appelle les mèmes par analogie aux gènes.
Voilà, ce qui est curieux, c'est que Dawkins, dans son livre sur le gène égoïste, il a introduit ce terme de mème. Il dit, mais il n'y a pas que les gènes qui se comportent comme ça. Il y a aussi l'information des idées qui se reproduisent. Ça marche aussi.
Donc c'est une analogie de comportement.
Voilà. Alors moi, en termes physicien, je dis simplement, ce qui compte, c'est l'information, d'où la thermodynamique. La thermodynamique et l'information, je parlais d'entropie, c'est d'information. Le mot-clé, c'est l'information, et cette information, la structure dissipative mémorise l'information quelque part. Chez les animaux, elle mémorise essentiellement les gènes, mais au fur et à mesure de l'évolution, elle a mémorisé de plus en plus d'informations ailleurs que dans les gènes, en particulier dans ces structures neuronales.
Oui, puis
Et l'information chez l'homme, l'information mémorisée dans le cerveau, a pris un rôle prédominant par rapport à l'information mémorisée par les gènes.
Oui, et petit à petit, l'homme, pour éduquer ses petits, comme il a inventé des techniques de plus en plus élaborées, a dû, parce que bon, la transmission se faisait essentiellement par imitation, mais a dû aussi inventer le langage pour pouvoir transmettre d'informations.
Alors, voilà, c'est là que la clé, c'est l'échange d'informations. Alors, je fais un parallèle complet entre la façon dont notre cerveau fonctionne. C'est quoi notre cerveau? C'est des neurones qui sont en liaison avec d'autres neurones qui échangent de l'information. Ça va être un réseau neuronal. Eh bien, un ensemble d'individus qui échangent de l'information par la parole, mais c'est un réseau neuronal. Donc, il fonctionne comme un cerveau. Donc, alors, on peut appeler ça le cerveau global de l'humanité. Donc l'humanité, c'est une structure dissipative qui s'auto-organise et qui a un cerveau global dans lequel il échange. Et l'information, elle est mémorisée où? Elle est mémorisée. Elle a commencé à être mémorisée de façon fiable et reproductible dans l'écriture. C'est l'écriture qui a permis le développement des civilisations, des premières civilisations. Ces premières civilisations, Rifkin les appelle la civilisation hydraulique, où ils ont construit des barrages, des canaux d'irrigation et qui ont permis de développer l'agriculture et du coup la population s'est mise à croître assez vite. C'est les premières civilisations et c'est à cause de l'écriture. Sans écriture, ils n'auraient pas été capables de s'organiser.
L'Homo sapiens, enfin l'espèce Homo sapiens, a eu d'autres concurrents. C'est a montré une meilleure capacité d'adaptation parce qu'il était plus adaptable, plus souple. Mais cette capacité d'adaptation a été mise à rude épreuve suite déjà à une époque de réchauffement climatique où l'espèce Homo sapiens est passée au bord de l'extinction. Et à ce moment-là, il a dû se résoudre à manger des graines, apprendre à les faire cuire et surtout apprendre à les sélectionner pour les semer. Donc là, c'est carrément la naissance de l'agriculture.
Oui, alors c'est vrai que je peux dire que vraiment ce processus, on est passé des gènes à la culture, parce que pour modifier les gènes, il faut 100 000 ans, enfin. C'est très lent de modifier les gènes. Bon, quand on est passé de l'époque des grands singes aux australopithèques, il y avait un problème de nourriture, il n'y avait plus les arbres... Il mourait, il n'y avait plus que de la savane, il n'y avait plus de fruits à manger, il fallait survivre. Alors, quelques rares individus ont réussi à s'en tirer en mangeant des racines. Et puis, leurs gènes ont évolué petit à petit. Donc, ils se sont remultipliés, mais parce qu'il a fallu que les gènes évoluent pour pouvoir vivre avec des racines. C'est devenu des australopithèques. Et puis ces australopithèques, ils ont failli s'éteindre aussi. D'ailleurs, ils se sont éteints. Hein. Mais les quelques rares qui ont survécu, leur organisme, les gènes se sont adaptés pour manger de la viande, etc. Et ça a pris encore 100 000 ans au minimum. Et puis, à un moment donné, à nouveau, il n'y a plus rien à manger. Quand le climat s'est réchauffé, les grands mammifères ont disparu, il ne restait plus que des graines. Les oiseaux, ils mangeaient les graines, les bovidés mangeaient les graines, mais nous, on était faits pour manger de la viande. S'il n'y avait pas de viande à manger, il y en a qui ont survécu en écrasant des graines et en les mangeant, ce qui était un poison en plus. Et moi qui suis sensible au gluten, c'est encore un poison pour moi.
Et là, donc, ça nous entraîne tout ça à la révolution néolithique, un changement d'alimentation complet.
Et quelques siècles, la transformation s'est faite. Au lieu de prendre 100 000 ans, ça a pris un siècle.
Et puis surtout, il n'y a pas eu de transformation génétique.
Il n'y a pas eu de transformation génétique. Un petit peu, quand même. Un petit peu, parce que nos gènes, puisque j'ai encore des gènes qui supportent mal certaines graines.
Enfin, l'évolution est devenue culturelle.
Alors, c'est ça. Au lieu d'être génétique, l'évolution est devenue culturelle.
Zjeskani szonia, trantesz.
On retrouve dans l'évolution culturelle les mêmes problématiques que dans l'évolution biologique. C'est le cas du choix entre compétition et coopération. Ce problème est connu des mathématiciens sous le nom de dilemme du prisonnier.
Oui, bah, oui, c'est la théorie des jeux. C'est un des exemples qu'on donne en théorie des jeux. Comment passer de... Alors, ce qu'elle montre surtout, c'est qu'il ne peut pas y avoir coopération sans échange d'informations. La coopération est entièrement basée sur l'échange d'informations. Et plus vous échangez d'informations, plus vous coopérez. Alors là, pour la culture, ça apparaît à fond. Et les sociétés humaines, on les voit, on est en pleine période où on parle de mondialisation. C'est dû aux échanges d'informations croissants. Déjà, il y a eu un gros pas en avant avec l'écriture, mais à partir du moment où on a inventé les téléphones, la radio, maintenant c'est l'Internet, ça va de plus en plus vite aussi.
Vous dites que l'économie aussi suit les lois de la thermodynamique, et c'est la monnaie qui mesure les flux d'entropie produits par la société.
C'est une information, la monnaie. Effectivement, c'est une mesure de flux d'entropie. Alors, bon, on peut voir aussi la monnaie. Bon, j'ai écrit ensuite des choses sur la monnaie. À la fin de mon livre, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la monnaie, mais c'est quelque chose de difficile. Pour moi, la monnaie, c'est un catalyseur. Vous savez, en chimie, un catalyseur, c'est quelque chose que vous mettez à l'entrée et que la réaction se produit. Donc, le catalyseur est utilisé dans la réaction. Et puis, quand la réaction est terminée, vous avez fabriqué votre produit. Mais le catalyseur, il se retrouve intact à la fin. Il se retrouve. Il peut être réutilisé. Alors, si un catalyseur, normalement, vous retrouvez autant à la fin que vous en avez au début. Vous avez des cycles de réaction, un cycle de réaction chimique qui s'est produit. Vous retrouvez votre catalyseur. L'argent, c'est pareil. La banque vous fournit de l'argent. Et vous fabriquez vos produits qui vous sont utiles. Et puis, ce produit vous rapporte de l'argent que vous pouvez rendre, donc vous pouvez le rendre à la banque. Maintenant, si ça marche vraiment bien, vous en avez plus à la fin que vous en aviez au début. Donc vous allez pouvoir le réutiliser rapidement pour en faire plus. Alors ça c'est ce que les chimistes appellent non pas un processus catalytique, mais un processus autocatalytique. Vous avez plus de catalyseurs à la fin que vous en aviez au début. Alors c'est un processus qui fabrique son propre catalyseur. Alors un processus autocatalytique a tendance à croître exponentiellement. L'économie, ça marche comme ça. À partir du moment où vous avez plus d'argent que la banque vous a emprunté, non seulement vous pouvez rembourser votre emprunt initial à la banque, mais vous pouvez l'utiliser pour investir davantage. Et donc vous allez investir dans de nouvelles usines qui vont produire, qui vont permettre d'avancer, et vos usines vont croître exponentiellement, du moins tant que ça marche. Alors évidemment, c'est toujours ces mêmes processus qui à croissance exponentielle, comme le nombre d'individus, le nombre d'espèces, d'animaux d'une certaine espèce, qui vont modifier leur environnement, et à un moment donné, ça ne marche plus, ça s'effondre. Alors l'économie, c'est un peu c'est ce qui se produit. Après la guerre, l'économie est repartie très vite. On s'est mis à l'économie du marché, l'économie libérale, justement, qui favorise au maximum ces processus exponentiels. L'économie est partie exponentiellement, a considérablement modifié son environnement, et on court à la catastrophe. C'est comme ça que les civilisations s'effondrent.
Mais vous dites même qu'on on a réuni les conditions propices à un effondrement de civilisation.
Ah, complètement, oui. Le 21e siècle verra un effondrement terrible. Mais ça, c'est ce que le Club de Rome avait dit dans les années 70, hein, mais les économistes traînent les pieds, ils ne veulent pas comprendre, c'est catastrophique. Mais si vous regardez, lisez les livres écrits par les historiens sur les effondrements de société, c'est exactement ça le processus.
Alors, il faut toujours rester optimiste. Il est toutefois possible que grâce à une prise de conscience des réalités de l'évolution, à laquelle peut contribuer votre livre certainement, le cerveau global de l'humanité se forme. Et Pierre Teilhard de Chardin parlait déjà de noosphère.
Oui, il voyait bien ce processus d'auto-organisation. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye d'expliquer, que je ne vais peut-être pas complètement expliquer. Je parlais d'espace des phases, où il y avait deux variables dans lesquelles on tourne en rond. Il y a on oscille entre la compétition et la coopération, et on peut passer soit du côté de la symbiose, soit du côté de la sélection de parentèle. Et on tourne en rond, mais... On avance quand même. Alors pour voir qu'on avance, il faut ajouter un troisième paramètre qui est l'interconnectivité. Ça, c'est les gens qui travaillent dans les écosystèmes. On voit très bien ça. Les écosystèmes s'organisent comme ça. Les écosystèmes, ils sont en compétition. Il y a les proies, les prédateurs. Les proies vont essayer de manger les prédateurs, mais s'ils ont mangé... les prédateurs vont essayer de manger les proies, mais quand ils ont tout mangé les proies, ils ne peuvent plus survivre. Donc les proies vont revivre, les prédateurs vont... etc. Donc on oscille, mais on n'avance pas. Mais en fait, il y a un troisième paramètre qui montre qu'on avance, c'est l'interconnectivité. Et les écosystèmes avancent en multipliant l'interconnectivité. Alors ça se voit c'est dans les écosystèmes qu'un écosystème se développe vers ce que on appelle le climax où il se reproduit, il marche, c'est là où il est dans l'état de production maximale d'entropie. Et il essaie de s'y maintenir en maximisant aussi les échanges, les boucles, les interconnectivités. Une société humaine, c'est pareil, mais c'est la même chose en physique. Depuis les quarks qui se sont mis à coopérer pour fabriquer des nucléons, qui se sont mis à coopérer pour fabriquer des atomes, qui se sont mis à coopérer pour former des molécules, qui se sont mis à coopérer pour fabriquer des macromolécules, etc. Et qui se sont coopérés pour fabriquer des gènes, puis etc.
Oui, donc l'hypothèse de votre livre, c'est que comme l'évolution a...
C'est sans cesse l'interconnectivité qui fait progresser la dissipation d'énergie.
Voilà, donc vous voyez l'humanité se condenser comme un organisme vivant unique.
Absolument, avec un cerveau. Mais c'est le Gaïa de Lovelock. Lovelock dit la Terre se comporte comme un être vivant qu'on a appelé Gaïa, qui serait un être vivant unique. Et il n'y a que comme ça. Alors c'est le message aux écologistes. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour le développement durable? Il faut suivre les lois de la thermodynamique, en particulier le second principe de la thermodynamique, il faut fabriquer des cycles réversibles qui ramènent toujours, qui permettent de revenir à manière l'environnement. Et on peut se développer qu'en maximisant l'interconnectivité, c'est-à-dire en fabriquant un être vivant unique, et c'est ce qui est en train de se passer. Je veux dire, ce Gaïa, alors Lovelock ne le dit pas parce qu'il n'a pas vu, mais Gaïa a un cerveau. Et le cerveau de Gaïa, c'est l'ensemble des êtres humains qui connectaient, qui échangent de l'information par le téléphone, par l'Internet, par le...
Vous voyez, cet organisme comme composé de diverses régions différenciées, comme les cellules sont différenciées dans un être humain.
Un cerveau, il y a des régions spécialisées aussi, mais tout ce cerveau, c'est des neurones qui échangent de l'information. Le cerveau de Gaïa, c'est des individus qui échangent de l'information, avec qui ont des zones spécialisées, etc. Voilà. C'est le cerveau de Gaïa.
Donc vous avez une très belle phrase, vous dites que ces zones, différentes régions seraient différenciées, l'intérêt de chacun coïncidant avec l'intérêt général, et chacun en ayant conscience, le concept né du siècle des Lumières, liberté, égalité, fraternité, deviendrait enfin une réalité.
Oui, on peut le voir comme ça. Enfin, j'ai essayé de mettre des phrases un peu optimistes, et de rattacher ça...
Alors, vous dites dans votre introduction que ce livre ne fait que rapprocher les pièces d'un puzzle, mais le résultat vous paraît parfaitement cohérent. Vous allez jusqu'à...
On part des lois de la physique, et ça s'appelle... D'ailleurs, c'est ça, la mécanique statistique. La mécanique statistique, on part de lois de physique qui sont des lois fondamentales, les lois d'électromagnétisme, les lois de la mécanique, qui sont réversibles, mais... On ne peut l'appliquer au processus complexe que par l'intermédiaire de la statistique. Et c'est la statistique qui introduit l'irréversibilité. Et ces lois de la statistique, on va, plus on avance dans le domaine des sciences, c'est pour ça que dans mon dernier blog, j'ai mis la classification des sciences d'Auguste Comte. On va des mathématiques à la physique, puis etc., vers les sciences, jusqu'à la biologie. Et puis, bon, Auguste Comte n'est même pas allé jusqu'aux sciences humaines, il n'a pas osé mettre les sciences humaines comme étant les sciences. Mais on va vers des systèmes complexes, de plus en plus complexes, qui dissipent de plus en plus d'énergie. Mais les processus, c'est toutes des conséquences des lois fondamentales de la physique. Donc, l'évolution de l'humanité est une conséquence. Et bon, on pense que l'homme, il est... Alors, c'est ça aussi un des problèmes avec l'économie. Quelle est la loi de base de l'économie? Les économistes, ça, ils ne sont toujours pas d'accord pour dire c'est quoi le bien-être. Or, le premier qui a dit vraiment ce que c'est le bien-être, pour moi, c'est Frédéric Soddy, c'est-à-dire c'est encore un physicien, qui est un prix Nobel, qui ne travaillait pas du tout dans ce domaine-là, il travaillait dans le domaine des isotopes, la chimie des radioisotopes. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'est l'économie. Il a dit le bien-être, c'est directement lié à la quantité d'énergie qu'on dissipe. Donc il a mis le doigt sur l'aspect thermodynamique tout de suite.
Vous dites que ce livre pourrait constituer un programme scientifique pour le 21e siècle qui pourrait permettre d'unifier la science.
Ah oui, je pense, oui. Ça paraît presque...
C'est bien, mais il faut oser le dire.
Bon, c'est marrant parce que c'est souvent les physiciens qui... C'est peut-être une façon de penser... Les biologistes ont tendance à dire, une fois qu'un jour, bon, il avait fait des erreurs, hein, Schrödinger, moi je l'en fais aussi, hein, forcément, mais les biologistes reconnaissent qu'un jour Schrödinger a écrit des choses qui ont été la base de la biologie du XXe siècle, écrit au début du XXe siècle. Hein, Schrödinger, c'est un. Je parle du physicien. Oui. Je pense que les physiciens. On a une vue, c'est peut-être une façon de penser les choses.
Une vue peut-être plus philosophique.
Non, c'est pas philosophique pour moi, c'est une façon de raisonner, je sais pas. Voilà, là on entre dans la philosophie, savoir pourquoi.
En tout cas, par son architecture et son regard universel, ce livre très éclairant peut certainement contribuer à engendrer le comportement fraternel à l'échelle planétaire que vous estimez non seulement souhaitable, mais possible.
Ben ça, justement, c'est un peu ce que dit Rifkin dans son dernier livre, traduit en français. Une nouvelle conscience pour un monde en crise vers une civilisation de l'empathie. Alors ce qu'il dit, justement, c'est que la mondialisation, l'échange d'informations de plus en plus croissant entre les individus, vous parlez de fraternité, lui il parle d'empathie, mais enfin bon, c'est la même chose, c'est presque synonyme.
Voilà, je rappelle que j'étais en compagnie de l'astrophysicien François Rodier, qui publie aux éditions Parole l'ouvrage intitulé « Thermodynamique de l'évolution », sous-titré « Un essai de biothermosociologie ». La quatrième de couverture commençait ainsi « Ils ne sont pas nombreux les livres qui donnent la vie, celui-ci en est un ». J'ajouterais que si l'enthousiasme est une forme de chaleur, alors ce livre est une source de chaleur. Merci.
Merci.
Vous écoutiez Chasseurs d'horizons, l'émission consacrée aux sciences, aux nouvelles technologies et à la prospective présentée par Denis Chataigner. Retrouvez et téléchargez tous nos entretiens sur notre site www.chasseursd'horizons.fr.